Il est 8h17, bienvenue à nos invités dans les studios de la radio. On accueille aujourd'hui le Forum des jardiniers, entre autres, voilà, avec trois personnes. On a Karine, bonjour Karine.
Bonjour.
On va régler les micros en même temps, voilà. On a Wivine.
Bonjour.
Hop. Et Christiane.
Christina.
Oh là là. C'est le matin en fait, c'est pas, ça ne va pas du tout.
Le lundi matin.
Ouais, en plus, hein, oui. On a l'habitude pourtant. Hein, mais... Donc, merci de monter ces 5 étages et vous êtes là pour parler du rassemblement pour la nature et la biodiversité à Bruxelles. Déjà, je vais vous laisser vous présenter individuellement. Karine, par exemple.
Bonjour, Karine qui... dans le Tonnier Forum depuis de très nombreuses années, défend de nombreux espaces verts sur le territoire de la région de Bruxelles capitale et parfois même au-delà.
Merci. Wivine.
Alors, bonjour. Wivine, je suis de Laeken et en particulier du collectif Save Dunderberg. D'ailleurs, Save Dunderberg a déjà été reçu sur Radio Panique, donc nous sommes contents d'être de retour. Et Save Dunderberg a rejoint le Forum des jardiniers l'année dernière. On va vous parler plus tard de cette fameuse année 2022 où s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, je suis assez nouvelle au Forum des jardiniers, mais déjà un petit peu plus aguerrie au niveau de la défense du Dunderberg à Laeken.
Christina.
Oui. Moi, j'habite à Saint-Josse, juste à côté en fait. Et j'ai été très fort alarmée en voyant la disparition des arbres, la facilité avec laquelle on les abattait. Et c'est ça qui a, il y a 8 ans, où, avec l'avenue du port, où j'ai commencé un peu à regarder tout ça, à observer, à me dire qu'il y a quand même un très grand problème. Et je suis dans le Tonnier Forum depuis quelques années, entre Wivine et Karine.
Donc le Forum des jardiniers, c'est quoi ?
Alors, le Forum des Jardiniers est quelque chose qui est né il y a bien longtemps, qui a commencé donc, au Kelbeek, là où malheureusement, donc actuellement, vous avez un espace complet détruit qui a fait face à une prison qui pose autant de problèmes que le fait qu'elle est apparue dans un espace naturel. Et donc en 2014, en fait, il y a 400 patatistes qui avaient donc déjà désobéi contre l'imposition de pommes de terre OGM expérimentales en plein champ dans le nord du pays. Ils se sont donc rendus sur cette friche et y ont planté des binches paysannes. Ensuite à cela, donc, les étudiants qui défendaient la plaine à Ixelles et les potagistes de Boundal, Ernotte à Boisfort, ont invité environ 150 citoyens à fonder un lieu de rassemblement, d'échange, de renforcement pour protéger les terres arables de Bruxelles et tous les espaces naturels. Et ça, c'est 2016, avec vraiment le Tonnier Forum des jardiniers qui voit le jour, qui naît. Alors, son activité consiste à alerter sur la disparition des derniers sols naturelles, vierges sur le territoire de la région bruxelloise, et à essayer d'éveiller les consciences, d'une part, au niveau politique, et d'autre part, à soutenir tous les collectifs sur le territoire qui se trouvent en difficulté par rapport à ce type de problème, et à réfléchir ensemble comment on peut faire autrement, comment on peut essayer surtout d'aborder le problème autrement. Puisque visiblement, la façon dont on a travaillé jusqu'à présent ne nous a pas aidés, puisque les terres continuent chaque jour à être minéralisées. Donc c'est, sur le territoire bruxellois, c'est exponentiel, surtout pour le moment, avec l'arrivée de stop béton officiel qui arrive de l'Europe et qui pousse évidemment tout le monde à obtenir des permis de façon à ce que l'affaire soit...
Profiter tant qu'on peut, quoi.
C'est cela. Bon, ça, en tout cas, c'est un facteur qui n'aide pas pour le moment. Il n'y a pas que ça, mais c'est un facteur qui intervient actuellement.
Parce que des espaces en fait naturels à Bruxelles, il y en a quand même un paquet. Et enfin un paquet.
Bon, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même.
En fait, il en existe, et mais de moins en moins.
Par rapport à d'autres capitales, on est au départ pas si mal loti que ça, mais c'est toujours un peu biaisé puisque vous avez la forêt de Soignes qui fait quand même partie de cet ensemble d'espaces verts, et donc ça, c'est quand même, c'est une chance inouïe, mais ça ne permet pas évidemment d'offrir des espaces verts à toutes. Proche.
C'est mal réparti dans le territoire.
Voilà. C'est pas pour autant qu'elle n'est pas très très importante, cette forêt, et qu'elle subit pas, elle aussi, de nombreuses agressions.
Mais non, du béton, c'est bien.
Voilà. Mais il faut pas perdre de vue qu'entre 2003 et 2016, Bruxelles a perdu 14% de ses espaces verts. Donc on est en 2016 actuellement, donc on est en 2023, et ça ne s'est pas ralenti depuis. Donc ce sont quand même des signaux inquiétants, surtout par rapport à tous les défis. Que ce soit au niveau du climat, au niveau de la chute de la biodiversité, il faut impérativement qu'on les conserve de façon à pouvoir affronter ces enjeux qui se présentent à nous.
Christina ?
Oui, il s'agit de 11 km² qui a disparu. Je ne sais même pas que Bruxelles est aussi grand, mais donc les pourcents qui ont disparu, c'est 11 km². Et ça, comme Karine dit, ça n'a pas arrêté depuis 2016. Ça s'accélère, en fait.
Et dans la même étude, en fait, ces chiffres viennent d'une étude de l'Université d'Amsterdam, il me semble, qui soulignait le fait que, dans la même période, la population bruxelloise a cru. Maintenant, on s'approche d'une stagnation, on en parlera peut-être plus tard. Mais là, il y a eu une augmentation de la population, ce qui veut dire que le nombre de mètres carrés de nature par habitant a diminué graduellement à Bruxelles. Avec les conséquences qu'on connaît pour la santé de la population, le bien-être à Bruxelles et la santé mentale notamment, bien sûr.
Est-ce qu'on peut parler un peu de ces enjeux et ces conséquences ?
Oui, bien sûr. Mais on peut bien sûr parler de ces enjeux, les enjeux de la nature en ville. La nature, on a parlé de la forêt de Soignes, donc qui est un très grand poumon qui est concentré à un endroit. Or, on sait que on a besoin de nature. Nous faisons partie de la nature. Donc, nous sommes une partie de cette nature. Nous avons besoin de ces arbres. Nous avons besoin de ces sols vivants. Pas seulement nous, les oiseaux. Enfin, quand on pense à la biodiversité en ville, effectivement, Pascal Smet, lui, ne pense que quand on lui dit biodiversité, il pense baleines et bande corail.
Il y en a beaucoup à Bruxelles.
Oui, non, voilà, justement, c'est pour ça qu'il pense qu'il n'y a pas de problème de biodiversité à Bruxelles, puisque nous n'avons pas de baleines, nous n'avons pas de bande coraux, et que certains, je cite mot à mot, certains essayent de faire croire que la biodiversité est menacée à Bruxelles. Voilà. Eh bien, oui, la biodiversité est menacée à Bruxelles, et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. 25% de la biodiversité est dans les sols, et ça, c'est même l'agence régionale Bruxelles Environnement qui nous le rappelle. 25% de la biodiversité est dans le sol, et cette biodiversité est indispensable. Si vous n'avez pas des sols vivants, vous n'aurez pas d'oiseaux dans les arbres parce qu'ils n'auront pas de quoi se nourrir, vous n'aurez pas ces insectes, et vous n'aurez pas tout le cycle naturel. Vous aurez aussi un problème avec le cycle de l'eau puisque les sols ne seront pas perméables. Et enfin voilà, on ne va pas faire tout un cours de biologie, mais maintenant, enfin, on pourrait bien sûr. Je voulais aussi insister sur des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas forcément. Par exemple, au bois georgien, il y a un mammifère assez rare, même on peut dire très rare, eh bien, qui par miracle était préservé en région bruxelloise, c'est le lairot. Et c'est un petit rongeur qui vit dans les chênes, enfin, ou dans les arbres. Enfin, en néerlandais, je crois qu'on dit eikmuis.
Eikel.
Oui, voilà. Ce lairot est une espèce menacée en région bruxelloise. N'empêche, ça n'a pas empêché, en novembre, je crois, je ne sais plus, de couper des arbres, de couper beaucoup d'arbres au bois georgien en pleine période d'hibernation des lairots. Quand on voit ça, quand on entend ça tous les jours, alors que les politiciens et les écosocialistes notamment prétendent se préoccuper aussi de nature, les bras nous en tombent. On se dit qu'on doit continuer à tempêter, continuer à rappeler la nature. Oui, la nature est menacée à Bruxelles et la nature nous rend des services la nature nous rend des services, qu'on appelle les services écosystémiques, dont nous avons besoin pour que Bruxelles reste une ville vivante. On ne peut pas faire une ville de béton uniquement. Voilà,
mais justement, ça part vraiment de cette idée-là d'opposition entre la ville et la campagne. La ville serait cet espace déjà perdu, bétonné, dans lequel il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de nature. Et la biodiversité à protéger, bah, elle est ailleurs. Et donc, il n'y a rien à faire ici, donc tout va bien.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment ça, là, ce qu'il y a en tête.
Ce qu'ils ont en tête, oui, c'est ça, effectivement. Mais d'une certaine manière, pour nous, effectivement, on dit construisez sur les sols qui sont déjà artificialisés. Éventuellement, reconstruisez sur les sols déjà artificialisés. En même temps, attention, il y a des sols qui étaient artificialisés, qui se sont renaturés. Et on pense, bien sûr, à la friche Josaphat, qui est quand même un exemple bien connu, où maintenant on a une très diverse biodiversité et une très haute valeur biologique. Alors, bien sûr, maintenant, on ne va pas dire qu'il faut aller rebétonner, qu'on peut rebétonner à la friche Josaphat, alors qu'on a créé, on a recréé, ou bien la nature a recréé elle-même, a repris ses droits. Et on a en plus des connexions entre les différents espaces verts qui sont aussi très importants, ce qu'on appelle les couloirs biologiques. Donc, ce sont effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Et nous ne sommes pas, nous ne nous prétendons pas forcément des spécialistes, nous sommes des militants. Mais la position du Forum des jardiniers ou des différents collectifs s'appuie en général sur l'avis de spécialistes, d'écologues. Et on n'est pas isolé, loin de là, dans cette position. Si même l'Union européenne arrive avec un nouveau règlement pour dire stop, on arrête de...
Stop et... Une fois qu'on est arrivé à arrêter la perte de biodiversité, il faut la redévelopper. Oui. Il y a deux points. Renaturer. Donc la barre, elle va être très haute.
Parce que oui, enfin, bétonner, c'est facile, mais après, c'est vraiment perdu. Et revitaliser un sol,
des efforts sont faits pour qu'il y ait aussi de la biodiversité dans le bâti. Mais malheureusement, très régulièrement, c'est un biais qui fait perdre... Des points, puisqu'on se dit « Ah ben ça va, on va arriver à réintégrer ça ou ça dans un ensemble plutôt minéral. » Mais les autorités comptent un peu trop là-dessus ou avancent ça comme une solution. Et donc là, on tombe très vite dans ce qu'on appelle le « greenwashing ».
C'est ça, c'est mettre des ruches au-dessus du bâtiment.
Oui,
des supermarchés.
Voilà, et autres. Hein, autre. Bon, il y a des choses qui sont évidentes et qu'il faut faire en ville, dans le bâti. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, même dans tout ce qui existe déjà maintenant, et que ce serait très malin. Mais par rapport aux nouveaux projets, là, il y a quand même toujours cette ombre du greenwashing très facile et qu'on peut nous imposer à coup de rapports très bien faits. Donc ça, c'est aussi... Il faut pouvoir se défendre aussi contre tout ça. Mais ce que je voulais rajouter par rapport à la perte d'espace naturel en région bruxelloise, c'est à certains endroits la mauvaise répartition et que donc il faudrait quand même arriver à comprendre que là où il n'y en a pas, il faudrait peut-être maintenant urgemment penser à en mettre parce que tôt ou tard, la vie va devenir vraiment très difficile physiquement et moralement, mais physiquement pour les personnes, notamment en été, quand on aura des périodes de canicule intenses. Et dans les quartiers où il n'y a pas du tout d'espace vert, ou plus d'intérieur d'îlots de qualité, ça va devenir problématique. Et déjà cet été-ci, les gens sont morts de chaleur à Bruxelles. Donc, il faut. Ça, c'est ce qu'on appelle quand même, j'ai l'impression en fait, une urgence. Et donc, même de ce côté-là, bon, parfois, on nous dit attendez, regardez là, on vous met un petit parc, c'est bien. Mais c'est bien, évidemment, il faut toujours dire oui. Mais ça n'est pas suffisant.
Et il ne faut certainement pas penser faire du zéro artificialisation net où on pense qu'on va pouvoir construire, par exemple, à Anderlecht, où il y a encore plein de nature, plein d'espaces disponibles, et qu'on va compenser dans le centre-ville en faisant quelques pocket parks sur un coin de trottoir. Parce que ce n'est pas du tout la même qualité biologique, de toute façon, et on ne peut plus se permettre de détruire. On peut bien sûr créer des nouveaux espaces verts dans le centre ou dans les espaces très minéralisés. On doit le faire, mais il ne faut plus détruire de nature.
Et elle
Ce qu'il y a, c'est que la nature ou même les friches ou les arbres qu'on a, ils sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans à se développer. Et même si tu vas planter maintenant, en abattant tout le reste, parce qu'on dit, oui, on va planter, oui, mais vous enlevez aussi la moitié ou plus. Et vraiment des zones relativement grandes, parfois. On ne peut pas rattraper ces 10 ans, 20 ans, 30 ans que la nature a déjà fait le travail pour se développer, pour se renforcer. Surtout qu'on est en train de le faire partout et en accéléré. Donc,
et en même temps. Ouais,
voilà. Et en même temps, et donc, on le voit vraiment partout, même pour des pistes cyclables, on va abattre des grands arbres. Les grands arbres à grande couronne rafraîchissent l'asphalte. Mais quand on est en vélo, on le sent aussi très très vite. Et donc tout ça, on peut pas juste dire « Ah oui, mais on va en replanter ». On n'aura pas des grands... Déjà, l'essence d'arbres qu'on choisit n'est pas nécessairement une avec une couronne. Et donc, on va pas pouvoir réparer ça. Donc on aura des canicules de plus en plus. Au plus on asphalte, au plus on aura des inondations éventuelles ou des pertes d'eau de pluie, parce qu'il y a aussi un plan de gestion des eaux de pluie de façon plus naturelle, mais tout ça doit arriver.
Puis pourquoi abattre des arbres si c'est pour en replanter
Ah, mais vous avez, vous voulez dire dans le sens mystique, c'est ça qu'un paysagiste, ici derrière, pour le tout petit parc, m'a répondu. Hein. Et donc ces gens-là.
Je ne comprends pas la réponse.
C'est ces gens-là qui décident tous ces lieux. On a ici à Saint-Joseph.
Saint-Joseph, qui n'est quand même pas un endroit où il y a énormément d'espaces verts. Ouais, voilà,
non, exactement. Ça c'est sûr.
On a 3-4 petits espaces verts et dans le parc Saint-François, il y a 10 arbres. Le paysagiste qui est le spécialiste, on m'a dit lors de l'enquête publique et commission de concertation à la commune. Oui, mais les spécialistes ont dit, qu'on peut abattre ceux-là parce qu'ils sont dangereux, ils sont malades, je ne sais pas quoi. Mais ces grands spécialistes, dans un petit parc où il y a 10 arbres, on leur demande, qu'allez-vous faire avec les deux cerisiers dans ce parc ? Ils sont où, les cerisiers ? Donc, et ça, c'est les spécialistes auxquels on confie ces lieux qui appartiennent en fait à tous. C'est les arbres et les sols. En ce moment, dans ce stade-ci, ils nous appartiennent à tous. Voilà. Aussi en captation CO2, qui est tellement important pour nos politiciens.
Et justement, ça nous appartient à tous. Donc là, c'est une dizaine de collectifs citoyens qui se rassemblent ce dimanche. Et avant d'arriver à ce rassemblement de dimanche, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. En tout cas, en 2022, tu le disais, Karine, en début d'émission. Et donc, en juillet, c'est ça ?
En juillet, donc, on a en fait été déposé au gouvernement bruxellois un manifeste demandant le moratoire sur la minéralisation, l'artificialisation des derniers sols vivants sur le territoire bruxellois. Donc on a, bon bien sûr, il n'y avait personne, on a demandé un accusé de réception, on a déposé un document, mais on avait organisé...
Parce qu'ils étaient en télétravail.
Pardon ?
C'est parce qu'ils étaient en...
Non, c'était les vacances, hein, je pense. Et puis, on avait organisé très courageusement une conférence de presse dans le parc royal.
Sous les arbres.
C'est ça, on s'est installé, on avait fait ça très confiant, mais en se disant, personne ne viendra. Et en fait, tout le monde est venu. Donc, il y avait des journalistes, et donc on a pu s'exprimer, expliquer. Il y a quand même eu un retour médiatique sur la place bruxelloise. Et puis, de fil en aiguille, les mois ont passé. Wivin reviendra là-dessus tout de suite, mais les mois ont passé. Et donc, quand on a déposé ce moratoire, il y avait 27 signatures, 27 collectifs qui avaient rejoint déjà les membres du Teunirs sur ce manifeste. Et donc, depuis, les collectifs n'ont cessé de s'ajouter, de rejoindre, de demander à signer avec nous. Et on est maintenant à, je pense...
En collectif, 59.
59 signatures, oui. Donc 27 en juillet, 59 non. maintenant. Donc
59 collectifs qui ont signé, c'est ça ?
Associations, comités et autres. Et il y a quelques autres signatures aussi, mais en collectif et comité, il y en a 59 en ce moment. Mais ça augmente graduellement.
Voilà. Parce qu'en fait, il faut quand même réaliser que le moratoire est quelque chose d'essentiel dans la mesure où, pour le moment, tout se bouscule. C'est très compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, hein, que ce soit pour nous ou pour des politiciens ou pour des universités. Les données, se déversent abondamment. Tout change partout. Donc, c'est pas évident d'arriver à planifier des choses à long terme. Et donc, justement, il est temps d'arrêter un petit peu, de se poser et de voir comment on va faire avant qu'on ait perdu les dernières ressources naturelles qui restent avant qu'on les ait perdues. Il faut se poser. Et en fait, c'est sur ce point-là que tout le monde est vraiment d'accord. Il faut absolument se poser. Il faut que ça s'arrête pour qu'on puisse voir comment on va faire.
Et Wivine, tu avais des éléments à ajouter?
Oui, j'avais quand même envie de citer quelques noms des sites qui sans doute vont parler aux auditeurs, aux Bruxellois. Après, on ne va pas lire forcément les noms des 59 collectifs, mais si on dit le Bois Georgien, justement, c'est Mediapark.
Sous la tour RTB, BRT.
Oui, voilà, sous la tour BRT.
Près de Mézère.
Le Champ des Cailles à Watermal, la Friche Josapha, le Donderberg à Laeken, le Marie Wills à Forêt, le Meilemeers à Anderlecht, le Val d'Or à Woluwe, le Keijenbeemt à Anderlecht, je pense, la Plaine, c'est sur quelle commune c'est?
Ixelles,
voilà. Tenreuken,
Boisfort,
l'hippodrome de Boisfort, Bistebroek, .. Voilà, je ne dirai pas tout, mais voilà, donc ce sont des dizaines d'hectares d'espaces naturels, semi-naturels, verts, qui sont menacés. Ça, c'est ce qu'on disait en juillet, et depuis, il y a eu encore d'autres. Les projets n'arrêtent pas. Alors, maintenant, il y a le parc du Bemt aussi qui est menacé, cette zone, par un projet de stade pour l'Union Saint-Gilloise. On a des nouveaux collectifs qui viennent nous rejoindre.
Au fur et à mesure du temps, des projets se montrent, des collectifs... quartier par quartier, projet par projet. Et là, ça a vraiment été la réunion de tous ces collectifs.
Voilà.
La réunion sur ce point précis de « nous demandons un moratoire sur l'artificialisation des sols à Bruxelles ». Pas dans un an, pas dans trois ans, maintenant.
On demande
un moratoire. Même si c'est, a priori, ça peut sembler, vous êtes irréaliste, avec quoi vous venez, on ne peut pas pousser comme ça sur un bouton, mais si. Quand il y a eu le Covid, on a poussé sur un bouton. Qu'on soit d'accord ou pas, on a poussé sur le bouton. Donc, je ne dis pas qu'il faut avoir d'office des attitudes aussi directives, mais quand même, il y a moyen maintenant de dire non, on ne va plus délivrer tous ces permis, on va d'abord réfléchir.
Ouais. Et donc, quand le propos est tout le monde est d'accord, c'est tous ces collectifs-là sont d'accord. Mais en face, dans la réception politique, une fois qu'ils sont revenus de vacances...
Wivine, je pense que tu étais présente.
Oui, j'étais présente.
Donc, le moratoire a été présenté au gouvernement.
Au cabinet Vervoort. On a finalement été reçus en septembre au cabinet Vervoort. Ils ont bien lu le moratoire. C'est non. C'est non. C'est non parce que c'est pas possible de tout arrêter, d'arrêter l'économie. Ils sont quand même arrivés avec ce concept de zéro artificialisation nette. Alors comme je le disais avant, zéro artificialisation nette, si c'est je détruis un sol, mais je vais faire une toiture verte, ça va pas fonctionner. On va avoir une perte de biodiversité. Mais malgré tout, on peut se dire que on fait pression. Elle est bien. On est bien conscient que la pression, qu'ils ressentent cette pression, et donc le fait de faire cette marche, ou cette action dimanche prochain, place de l'Albertine, on a situé l'action de dimanche là parce qu'on va se trouver entre Urban, donc l'administration, et le Parlement bruxellois, et c'est vraiment là qu'on veut faire pression. Donc, maintenant, on est 59 et c'est pas fini. On a eu une année 2022 plus sèche que jamais, plus chaude que jamais. Et je voulais quand même déjà lancer le mot, parce qu'on va peut-être en reparler plus tard, mais il y a le PRAS, On est en attente d'une modification du PRAS. Alors, qu'est-ce que c'est que le PRAS? Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? C'est le plan régional d'affectation des sols. On sait que la région est en train de préparer un nouveau plan régional d'affectation des sols et c'est très, c'est un enjeu très important.
Donc ça, c'est ce qui détermine ce que chaque mètre carré, en fait, enfin, comment chaque mètre carré peut être utilisé. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut construire dessus? Est-ce que pas? Est-ce que plein de choses comme ça?
Voilà.
Et c'est vraiment au mètre carré.
C'est au mètre carré, enfin, puis ce sont effectivement des sites, mais c'est bien défini, hein, ce sont des cartes, et ça rigole pas. Et donc, le dernier plan régional d'affectation des sols, il date de 2001. Et effectivement, il y a des zones absolument naturelles qui, en 2001, ont été mises en zone d'équipement public, par exemple. Donc, en fait, des zones à bâtir. Et je veux dire, en 2001, ben, peut-être la population n'était pas très sensibilisée. De toute façon, le PRAS, ça se fait un peu...
Ça semble très bureaucratique.
Robotique,
c'est compliqué.
Ouais, c'est ça,
c'est compliqué, ça ne parle pas aux citoyens lambda. Et donc, les gens n'ont pas réagi à ce moment-là.
Et l'information ne circule pas non plus sur un PRAS. Enfin,
voilà, normalement, il y aura quand même des informations, des enquêtes publiques, etc. Donc, il faudra prendre ce train-là de toute façon, hein, tout le monde. Mais en attendant, il est important de mettre dès à présent beaucoup de pression pour que ce PRAS réponde aux enjeux climatiques de façon effective, hein, parce qu'on n'est vraiment pas en avance à Bruxelles, et également aux enjeux de biodiversité. C'est un grand moment où on peut faire, en tous les cas, basculer certaines choses. C'est une opportunité, il faut pas la manquer. Mais ce n'est prévu que pour en 2025, d'où l'intérêt, à nouveau, d'avoir un moratoire pour pouvoir arriver à utiliser cet outil de façon très efficace.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, notre demande, nous, c'est clairement de mettre à l'abri la biodiversité, les habitats naturels, avant, pour avoir une réflexion sereine, avant qu'ils soient détruits et que peut-être en 2024, on dise « Oh, dommage, c'est vrai, ils avaient une haute valeur biologique. Bon, tant pis, on va faire un pocket park, je sais pas où. »
Une mini-forêt.
Il y a aussi ambition, enfin, il y a des élections communales en 2024, il y a aussi utilité à mettre ce débat sur la table à ce moment-là et en faire déjà maintenant
ça a commencé
en faire un vrai enjeu de discussion.
Mais ce sont aussi les élections régionales, voilà. Donc
on peut peut-être aussi ajouter que on a été reçu au cabinet Vervoort, peut-être aussi parce qu'il y avait 40, il y avait des pétitions et c'est pas moi qui les ai faites, donc c'est les comités locaux qui en ont fait un stop béton, des pétitions stop béton. Il y a eu 40 000 signatures quand même. Et je pense que là, ça fait quand même aussi bouger. Puis ce qu'on a encore fait aussi, c'est l'année passée, c'est dans les lieux, dans quelques-uns des lieux fortement menacés, on a fait des marches. Donc les collectifs locaux ont organisé des marches, entre autres, la première c'était Champ des Cailles. Enfin, ils avaient déjà organisé, mais nous on avait la même idée un peu en même temps, donc on a continué là-dessus.
On a rejoint,
et c'est un peu ça aussi, c'était au mi-février de l'année passée, et on fête un peu le premier anniversaire de la première marche ce dimanche aussi. C'est pour ça aussi qu'on le fera quand il fait trop beau et chaud, mais déjà maintenant. On a été au
Une marche, ça consiste en quoi?
La première, c'est une marche, activiste, où je ne sais pas combien de gens il y avait à la première, 1000. On a été à la Friche Josapha, là ils avaient aussi très bien organisé ça, il y avait aussi 1000 personnes, puis il y a les déchaînés qui sont venus dire coucou à la fin en vélo, en dring-dring et en gueulant. Il y avait chaque fois des gens qui venaient parler.
Des interventions,
merci. Comme Olivier de Schutter. Et on a été au Donderberg aussi, qui d'ailleurs, depuis, je pense, ouvre chaque mois le Donderberg pour les gens qui veulent aller voir. Vraiment, allez-y avant que les pelleteuses arrivent, et venez aussi arrêter les pelleteuses quand elles arrivent.
Troisième dimanche du mois.
Oui, très, très, très impressionnant comme endroit.
Troisième dimanche du mois, après-midi, de 14h à 16h en hiver, 17h le reste de l'année.
Voilà. On a été au Mellemer, qui est à côté du Vogelsang. Et donc, au Donderberg, il y avait un peu moins de monde parce qu'on est parfois en vacances, ou, mais on a juste continué. Peu importe, s'il y a beaucoup de monde, on continue. Et puis, voilà. On a été au...
Le Marais Wills, d'abord.
Ah oui, on a été... Oui, mais bon, je ne fais pas un ordre chronologique, désolé. Je devrais, mais bon. On a été au Marais Wills, là aussi. Et c'est chouette de voir, parce que chaque comité ou collectif local ou groupement local a vraiment sa particularité. Et au Marais Wills, par exemple, leur particularité, c'est vraiment la créativité, le côté artistique. Donc c'était une très belle marche avec des beaux oiseaux qu'on avait fait et tout. Enfin, c'était très, très beau. Il y avait aussi beaucoup, beaucoup de gens. Et par exemple, à la Friche Josapha, c'est plutôt le côté naturaliste. Là, quand vous allez sur observation.be, vous allez voir tout, ou sur leur page Facebook, vous allez voir tout ce qu'on y trouve comme insectes et animaux. Très, très intéressant. Et puis, on a fait un tour de Tonröken au parking improvisé, spontané, près de l'hippodrome. Et on a été au Mellemersch, oui, j'ai dit. D'ailleurs, le Mellemersch aussi, allez-y, c'est accessible tout le temps. C'est juste à côté du métro. C'était lequel? Eddy Merckx, je crois. On sort du métro, on va vers le cimetière Champ d'Oiseau et on est tout de suite là. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est magnifique.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup lors de ces marches qui étaient concentrées autour, chaque fois, des endroits menacés, de découvertes. Il y a des tas de gens qui sont venus, qui magnifique. En fait n'avaient jamais entendu parler de l'endroit. Il y a eu, ça, c'était aussi très impressionnant et encourageant.
Et c'est très intéressant aussi de voir que ce ne sont pas des parcs. Donc, il y a vraiment une différence entre un parc et une zone naturelle, vraiment. Ouais.
Est-ce qu'il y a un endroit qui répertorie ces endroits? Enfin, un endroit.
Déjà, sur le site du Teunirs Forum des jardiniers, je suppose que vous référencerez.
Tout à fait, on mettra ça sur.
Il y a quand même moyen de trouver beaucoup d'informations, et notamment sur l'évolution des différentes démarches qu'on a accomplies depuis, les communiqués de presse qu'on a sortis concernant différentes problématiques. Toujours de notre point de vue, de l'importance d'arrêter absolument l'artificialisation des sols encore libres à Bruxelles. Et donc là, il y a moyen de trouver beaucoup d'informations. Et aussi via la page Facebook, on essaye quand même de relayer un maximum de choses qui se passent au niveau des différents membres ou des différents comités qui soutiennent.
Il y a une page et un groupe en ce moment.
Oui.
Donc ce dimanche, place de l'Albertine, donc rassemblement avec les différents collectifs, mais aussi toute personne évidemment qui a envie de rejoindre et défendre la nature et la biodiversité à Bruxelles. Vous proposez d'ailleurs d'amener une poignée de terre du sol vivant que vous défendez. Voilà. Et donc avec la proposition de réaliser un rituel de la terre inspiré d'une tradition ancienne. De quoi s'agit-il?
Mais on va peut-être pas tout révéler.
Ah, il y a des surprises.
Ben, pas vraiment, mais finalement, on va peut-être pas raconter tout le rituel. Mais c'est vrai que ce serait bien que chacun vienne. Alors, on dit avec un pot de confiture, parce que les gens ne viennent pas avec une benne ou, voilà. Enfin, une petite quantité de terre.
C'est plus compliqué.
Une petite quantité de ces sols vivants, donc, qu'on voudrait mêler. Voilà. Et puis, voilà. Enfin, c'est un petit peu comme les baptêmes de sang, enfin, on crée des liens d'amitié, de sang, enfin, comme on faisait peut-être, des sortes de rituels comme ça. Là, en mêlant les terres des différents collectifs, on fonde aussi le Forum des jardiniers sur quelque chose de très concret, parce qu'on mêle nos sols vivants. Et puis, voilà, si, je vais quand même le dire, mais voilà, chaque collectif va peut-être repartir donc avec la même quantité de terre, mais ce mélange, voilà. Et donc, on va le remporter
spoiler.
Chez nous.
Ouais,
ce qui symbolise aussi le fait que tous les endroits à Bruxelles et que toute la ville, l'urbanité est complètement liée et que c'est pas la peine de dire ah ben je vais sauver quelque chose là et puis c'est bon, ok, ça va, j'ai fait le job. C'est pas suffisant, il faut que si on sauve quelque chose, ça reste connecté à des tas d'autres choses et que surtout le maillage s'étende bien sur toute la région de façon généreuse
Et plus il y a de nombre, plus il y a de poids. Enfin, ouais. Voilà. Et il y a la COP 15 de la biodiversité à Montréal bientôt. Est-ce qu'on en attend quelque chose?
Elle est déjà passée.
C'était quand?
C'était en décembre.
Oui, c'était il n'y a pas longtemps. Ouais.
Mais voilà, donc on espère que ce qui a été annoncé là va se répercuter. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire espérer, on verra, c'est un peu trop tôt pour voir quel impact ça aura ici.
Moi, je n'ai pas suivi ce qui s'est dit à cette COP 15.
En fait, le message, c'est qu'il y a une grande urgence, parce qu'effectivement, on est dans la sixième extinction de masse des espèces, et il est mais plus qu'urgent d'agir. On ne peut plus admettre aucune action irréversible et il faut sauver tous les écosystèmes menacés. Et comme on le disait déjà, encore plus dans les villes, parce que nous, donc, on se situe vraiment au niveau bruxellois. Ça ne veut pas dire, on sait très bien que la nature ne s'arrête pas aux portes de Bruxelles, hein, mais voilà, on milite à Bruxelles. On sait à quel point on en a besoin pour survivre à Bruxelles. Parce que quand on dit « ça va devenir dur », on sait déjà, les étés étaient déjà excessivement durs avec la sécheresse qu'on a eue l'année dernière. On n'a pas eu des 38 ou 40 degrés tellement, mais on a eu tout un été à 29 degrés ou à peu près. Je crois que les moyennes de température à Bruxelles au mois d'août étaient
exceptionnelles. Oui, ça a vraiment été une sécheresse très très longue. Ouais. Et très, très difficile pour tous les maraîchers autour de Bruxelles.
Aussi,
par l'alimentation. Ça n'a vraiment pas été facile.
L'alimentation va aussi devenir un problème si on continue comme ça. Mais c'est aussi les sécheresses consécutives, parce qu'il y a même 3 ans ou plus, il y a aussi eu 4 mois où il n'y a quasiment pas plu, et vraiment avec des canicules beaucoup plus importantes encore. Donc consécutivement, l'un un an après l'autre. Aussi, les arbres, à un certain moment, ils vont juste péricliter.
Ben c'est ça. Il y a tel stress hydrique que finalement, on abat des arbres. Alors, plus tous ceux que la région et les communes abattent, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. Quoi.
Et si je peux ajouter, je ne sais plus exactement comment il a dit à la COP, mais le président Guterres a commencé à introduire avec « We are hell-bent on destruction. Humans are hell-bent on destruction. » Mais il faut regarder les mots exacts, mais c'est vraiment... On s'obstine à détruire vraiment toute la vie en réalité. Et alors il disait « We are treating nature like a toilet ». Donc il en a un peu, voilà.
Oui, il a utilisé le mot de suicide collectif.
Ah oui, juste, exactement.
C'est un suicide collectif.
Oui, oui. Il faut changer ou c'est un suicide collectif.
Et nous n'admettons pas que nos édiles... régionales nous suicident.
Des demi-mesures ne sont plus audibles maintenant.
Mais c'est même pas des demi-mesures, et c'est même pas qu'ils font rien. Ils agissent, mais dans le mauvais sens et en accéléré. Donc, il faut pas accepter que ceux qui décident ne soient pas à la hauteur de décider pour nous. Ils peuvent plus décider pour nous, ils n'ont pas la légitimité, même s'ils sont élus, ils n'ont pas de légitimité.
Parce qu'il faudrait peut-être dire quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui a provoqué aussi notre indignation, et je ne suppose pas que la nôtre, mais en septembre, au début septembre, donc on était en attente d'un rendez-vous au cabinet Vervoort, on avait déposé le manifeste pour le moratoire au mois de juillet, on avait eu un été catastrophique, enfin on avait marché déjà depuis le début de l'année, on avait fait les différentes marches, etc. Et lors de ce salon de la promotion immobilière, enfin, qui est un entre-soi entre les politiques et les promoteurs immobiliers, où les places d'entrée coûtent 900 euros, donc, où quelques militants se sont fait mettre dehors manu militari, Rudy Vervoort, Pascal Smet et Nawal Benhamou ont quand même oser dire, sans sourciller, au contraire, même, je dirais, c'est de la pure provocation, qu'ils allaient effectivement encore bétonner 42 hectares de nature à Bruxelles. 42 hectares de nature, en citant la Friche Josaphat, le Donderberg, le Meilemersch, etc. Mais c'est renversant d'entendre une chose pareille. Hein. 2 mois avant la COP, enfin, entre les différentes COP, les COP se succèdent et le monde ne change pas à Bruxelles. La politique ne change pas.
Non, maintenant aussi, Pascal Smet va parler dans une conférence, une journée d'études aussi organisée par les investisseurs. Et donc, c'est 700 euros l'entrée. Et là, si on veut savoir ce qui se passe, ce qu'il dit vraiment, c'est là qu'on doit aller. C'est là qu'il vend les derniers sols, c'est là qu'ils vont, les dernières opportunités que avec le good living que les investisseurs auront. Et c'est donc là que tout se décide, et après on ne peut plus faire grand-chose, parce que même lors de la commission de concertation qui suit l'enquête publique, où on a le droit de réagir, soi-disant, sur des projets qui sont déjà beaucoup trop ficelés et qui ont déjà coûté beaucoup trop cher pour encore changer quoi que ce soit, allez, en grande ligne quand même, bah, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais en fait on n'a plus rien à dire après, et donc tout se décide, à mon avis, justement à...
C'est un salon.
Dans ces salons,
à huis clos.
Ou peut-être dans les loges du stade de foot aussi. Hein.
Peut-être.
Oui, mais non, ça c'est clair aussi.
Quoi. Ce sera un peu le mot de la fin.
Bah, c'est pas joyeux.
Non, le mot de la fin, c'est rejoignez-nous absolument dimanche à 14h30 oui. Au Mont des Arts. Avec toute votre bonne humeur. Venez le plus nombreux possible, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. La clé, c'est qu'on puisse montrer que ça ne concerne pas qu'une poignée de personnes, et que tout le monde est bien conscient que ça concerne chaque habitant de la région.
Et que c'est pas un truc de jardinier bobo dans sa petite terre privée.
Non. Et juste tout. Encore un tout petit détail ou un petit appel supplémentaire. Faites-en un carnaval des animaux. Venez déguiser si vous voulez, les enfants déguisés, etc. On est là pour la biodiversité. Voilà.
Et pour le mot positif aussi, je rejoins Karine avec son mot. Soyez déterminés.
C'est très important.
Restez déterminés.
Devenir en sachant ce qu'on veut.
Merci Karine, merci Wivine et merci Christina.
Merci à vous. Merci.
On remettra toutes ces informations et les liens vers le site.
Sur la page des promesses de l'aube.
L'annonce du rassemblement dimanche, le podcast, tout
sur
ça.
Sur radiopanique.org. Radio Panique.
Mettez une petite affiche devant votre fenêtre.
Grandiose.
Voilà.
C'est ça. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.